Bonjour et surtout bonne année à toutes et à tous. L'équipe du magazine de la moto de Campus Lille et de Quiquincoute et Toupale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année. Que les balades soient nombreuses sur des routes sympathiques, que le beau temps soit de la partie, bien sûr, que les rencontres vous apportent que du bonheur. Et si l'on pouvait y ajouter une santé de fer, nul doute que la passion pour la moto restera intacte et nous aidera à vivre ensemble pour continuer à la partager. Pour commencer cette toute première émission de l'année, rien de tel qu'une équipe de motards engagés. Messieurs, bonjour.
Bonjour la niche.
Bonjour Daniel, la niche. Daniel, Christophe, Jean-Yves.
Bonjour, bonjour.
Et bonne année à vous surtout. Alors,
bonne année. Hein,
oui. Et bonne révolte tout au long de l'année.
Ah
2025.
Ça, je m'en doutais que Jean-Yves nous...
Ah non. Sexe et rock'n'roll.
Révolte.
Qu'est-ce que Jean-Yves, tu penses? Parce qu'on a vu des petites brèves qui sont apparues dans les magazines là, pour 2025. Là.
Une désinformation formidable à propos des remontées de fil. Hein, la CIF qui était condamnée par tous les journalistes. Et puis finalement, comme on a la chance d'avoir un gouvernement complètement impuissant, personne n'a les couilles de se continuer son boulot. Et donc la CIF est prolongée jusqu'à une date ultérieure.
C'est quoi la blague de l'impôt sur le bruit hein, puisque ça c'est sur Motomag hein, du mois de janvier. On va en parler après avec Christophe.
Ah oui, c'est pas une blague, c'est les nouveaux radars Méduse qui s'installent à une vitesse. Mais c'est comme.
Donc ce serait 5 euros par décibel.
C'est comme la syphilis, hein, ça se répand, les radars Méduse à une vitesse formidable.
Oui, mais c'est pas la portée de toute la bourse.
Voilà. Alors on va commencer comme d'habitude avec un aperçu du sommaire du Motomag du mois de janvier, Christophe.
Oui, alors. Effectivement, l'édito de Pierre Orluc, donc le rédac chef de Motomag, qui parlait de 2024 comme l'année des dangers pour la moto et qui parle de 2025 comme l'année des combats, pas du combat, des combats. Alors tu parlais du bruit, effectivement, il rappelle. Alors il y a effectivement les radars Méduse dont parlait Jean-Yves, mais il y a surtout cette taxe. Moi j'avoue que ça c'était passé hors des radars pour moi, je ne l'avais pas repéré pendant les fêtes, juste avant les fêtes. Concernant donc un groupe d'écologistes à l'Assemblée nationale qui a essayé donc de tenter de passer un amendement concernant une taxation au décibel au-dessus de 77 dB avec une taxe ou
tranquille quoi. Hein.
On peut quand 5 euros par décibel.
Quand la majorité des députés sont en vacances, on passe une petite loi.
Voilà. Et donc finalement, c'est passé par 49 voix contre 48. Mais ça n'a pas pu trouver son application parce qu'entre-temps, y a eu un gouvernement qui est tombé et donc le projet de loi de finances a retoqué la proposition. Donc on reviendra sur ces combats. Donc qu'est-ce que nous attend? Alors j'ai élargi en fait le sujet en disant qu'est-ce qui nous attend pour 2025, sachant qu'en regardant plus largement les problèmes de certaines marques, des marques premium pour ne citer que KTM, l'arrivée de la Chine, rappelez-vous, il y a deux mois, il y avait un super dossier de Philippe Guillaume, justement sur la Chine, qui levait beaucoup d'interrogations. Et le Salon de Milan répond, mais de façon très concrète, sur ce qui nous attend. Le dis, la déferlante chinoise.
Oui, ouais, c'est pas une déferlante, c'est un assassinat mondial.
Bon. On verra, ça sera le sujet. Un deuxième sujet donc concernant les dossiers moto. Alors ce mois-ci, c'est la sortie de la 1300 GS BMW Adventure, donc face à ses concurrentes. Roulée sportive en sportive donc et les essais, et ça sera intéressant de voir le plateau d'ailleurs des motos qui sont présentées. Et puis une rubrique consommotard où si vous avez raté vos cadeaux de Noël, c'est la séance de rattrapage. Ça tombe bien, dans une semaine, c'est les soldes. Voilà. Donc je vous ai fait un petit inventaire de tout ce qui peut vous être proposé. Et une rubrique culture avec des livres. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Très bien, merci Christophe. Bon, rendez-vous avec l'intrépide Daniel Torel, intoxiqué à la custom culture. Alors Daniel, tu vas nous parler tu vas faire une rétrospective custom.
Oui,
tout à fait. Et à venir 2025.
Oui, tout à fait.
Parce que nous, on ne regarde pas derrière, hein, on essaye d'avancer.
Oui, mais compte tenu des événements qui se dessinent à nous, mais je reprends un petit peu les propos liminaires de Christophe sur ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans ici que je vous tanne sur le danger chinois sur la fabrication des matériels.
On archive les émissions, on va écouter.
Oui, Daniel. Vous pouvez, hein, pas de problème. Et je vous rappelle, il y a encore 2 ans avec le Stormbreaker, hein, la moto qui reprend.
Pas cher.
Et puis, 6 025 euros, voilà. C'est annoncé. Donc, c'est bien que Christophe se souvienne, et puis surtout nos amis de Motomag, qu'on a aussi, nous, nos sources, puisqu'on est souvent en Chine.
On en parlera après le sommaire du Motomag. Et on termine avec Jean-Yves Ballois, de la Fédération Française des Motards en Colère, hein, le porte-parole, Jean-Yves.
Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous, et surtout bonne révolte. Donc, plutôt que vous miner le moral avec les considérations au niveau national, je parlerai que du régional, de la 59 et de la 62, le calendrier prévisionnel et puis l'avis de la FFMC 59.
Très bien, merci Jean-Yves. Voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. Bah, à la technique, on salue notre pilote d'émission. Bonne année, Laurent. Hein, voilà.
Bonne année, Laurent.
Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. Et surtout, restez avec nous. À tout de suite.
Was a windless night when you left the ship. You never were a steady mover. I gave my hand, but you did slip. I'm a living man and you're a cold one. All the way for home. My love's as fair as a girl can be. My wedding ring's a heavy gold one. Now you lie alone in the deep dark sea. I'm a living man in your cold one. All the way from home. Young breeze to fill our sails and end the doldrums. A lucky ship speeds across the sea. I'm a living man in your cold one. So all the way from home. Thank you.
Voilà pour cette première émission de l'année. Aujourd'hui, un aperçu du sommaire du Moto Magazine du mois. Je rappelle que Moto Magazine, c'est le mensuel destiné à suivre l'actu motocycliste, notamment dans le domaine de la sécurité routière et de la pratique quotidienne de la moto. Et c'est Christophe qui nous propose donc ce sommaire, un aperçu du sommaire.
Voilà, alors toujours dans les premières pages de Motomag, une rubrique actu, mais on va le faire à deux voix, hein, Jean-Yves et moi, parce qu'effectivement, c'est la parole de la FFMC en l'occurrence. Et donc là, on revient sur les cinq. L'hiver sera chaud, mais c'est pas que l'hiver, hein, c'est toute l'année.
Non, sera 2000... non, alors ça, c'est le titre de Motomag, hein, oui. L'hiver. Mais non, c'est pas. Ce sera, à mon avis, de 2025.
Voilà, tout à fait. Alors, la blague de l'impôt sur le bruit, donc j'en parlais tout à l'heure. Et effectivement, avec cette méconnaissance, en fait, de la prise de son, puisque les décibels, c'est pas qu'une histoire de mesure. Hein, c'est pas je vous mets un décibel, c'est 5 euros de taxe. Il y a le dynamique. Et puis, il y a ce qui est sur la carte grise. Et oui. Après, t'en parlais d'Anne hors antenne concernant les préparations, etc. Justement, les constructeurs, ils ont des valves d'échappement pour atténuer de façon électronique. Ah, l'électronique, justement.
On en a déjà parlé de décibels Jean-Yves, qui est sa Rocket 3. En fait, ta moto est homologuée à 95 ou
99.
99 décibels.
97. Là,
97. Donc vous êtes hors la loi d'origine.
Non,
hors la loi.
C'est sur ma carte grise. Oui.
C'est la préfecture qui est hors la loi en acceptant de marquer 99.
Parce que là, sur l'article, c'est marqué à partir de 77 décibels. Voilà. 5 balles.
Voilà. Et puis et
5 balles par décibel.
Donc je suis à déjà 200 euros.
Oui, t'es à 200 euros. Ouais.
Le problème aussi qu'il faut savoir,
la dette,
c'est que ça va être intégré dans l'ambiance écolo, etc. Donc le bruit va être intégré dans une loi qui interdira le malus écolo, oui. Etc. Ça va être intégré dedans. Et donc, on ne peut rien y faire. On ne peut pas lutter contre un seul point parce qu'on sera en face d'un ensemble de lois restrictives.
Alors, je rappelle que ce n'est pas passé pour la raison que le gouvernement est tombé, effectivement, et que le projet de loi de finances n'a pas été voté. Mais le bruit revient quand même par le contrôle technique. Et donc, justement, c'est le deuxième sujet, donc le contrôle technique, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, évidemment, tu as les gouvernants qui se gargarisent des résultats.
Hein, oui,
sachant que ce que rappelle donc l'article de Motomag, c'est que 2,3 millions de deux roues concernées par le contrôle technique, 620 000 ont passé le contrôle technique.
Oui, sur ces 620 000, il faut se dire qu'il y a eu des passages obligatoires pour la revente, justement. Mais je vous encourage fortement à continuer à boycotter parce que, comme il durcira, cela demandera encore plus d'équipement pour les contrôleurs.
Un investissement.
Et donc, ils vont laisser tomber.
Ça commence effectivement par le contrôle du bruit, qui représente, j'en avais discuté avec un contrôleur, de l'ordre de 5000 euros. Donc, et c'est d'ailleurs, dans le courrier des lecteurs, vous irez voir un Guyanais qui évoque la problématique du contrôle. Il doit faire 230 km. Pour aller faire son contrôle technique. Et avec les problèmes de station, de ravitaillement, etc. Donc, le département de la Guyane.
Il n'y a qu'une seule réponse Daniel. À ces trucs-là, c'est la désobéissance civile.
Qu'est-ce que tu penses ?
Je pense ce que je vous dis depuis des mois. Rappelez-vous les premiers radars Méduse qui étaient en test boulevard de Roubaix. Je vous rappelle aussi la discussion que j'avais eue avec ma sœur qui est magistrate à la cour de Casse.
Ah bah ça va, si on a des problèmes, on peut peut-être...
Ouais, mais tout à fait.
Un bon carnet d'adresses.
On peut t'appeler, oui.
Voilà, et elle me disait, mais c'est vrai qu'on en discute dans les couloirs parce qu'elle fait aussi de la moto, elle me dit, 2025, ça va être la chasse au bruit.
Ah ouais.
Voilà, et on se rend plein dedans.
Alors, justement, par rapport à toute l'action de la FFMC, la rencontre du nouveau, mais qui devient l'ancien ministre des Transports, puisque au moment où il boucle le journal, il y a un ministre en poste, mais quand le journal est sorti, quand on en prend connaissance, il n'est déjà plus ministre. Donc, il va falloir suivre le rendez-vous de la FFMC avec le nouveau.
Un petit conseil à ceux qui doivent passer le contrôle technique. Bourrez votre peau d'éponge inox métallique. Au moins, le bruit sera réglé.
Voilà. Bon entendeur, salut. D'air.
C'est du 6 cylindres.
Contrôle technique.
Oui, c'est du 6 cylindres.
Et c'est anti-pollution.
C'est de la moto de voyou, ça.
Bon, quatrième thématique donc de l'hiver. Pardon. L'arrivée de Barbe.
De Barbe.
Ah, alors le retour des boutons à Jean-Yves.
C'est
le retour.
Le retour.
C'est le retour de la momie.
Oui, rappelons.
Mais dans quel gouvernement
il a été délégué interministériel. Ouais. Et on en a souvent parlé ici. Hein,
c'est prise de position. Un connard fini.
Donc délégué interministériel à la sécurité routière de 2015 à 2017. Et donc suite, j'en avais parlé, vous vous souvenez de ce cycliste qui avait été écrasé effectivement sur Paris. Donc un comité dénommé Théodule.
Alors je sais pas
quand
comité
on recule.
Théodule, c'est pour qualifier un comité qui discourt et qui ne sert à rien parce qu'il n'est même pas consultatif.
Bon.
Comité Théodule, c'est vraiment pour dire un comité qui pompe le fric de l'État et qui ne sert strictement à rien.
Oui, mais on a quand même placé M. Barbe à la tête de ce comité.
Donc il est grassement payé à rien foutre.
Et voilà.
Mais comptons sur lui pour distiller son poison.
Donc on suivra de près le positionnement de ce comité et de son leader, M. Barbe, par rapport à ça.
Il parle de violence routière. Mais la violence de l'État envers ses concitoyens, elle est encore pire. Hein.
Oui. Et puis, dernière, alors je demandais en antenne qui d'entre nous avait roulé sur le périphérique parisien. Rappelons que le périphérique parisien, depuis plusieurs mois...
Alors Laurent, il a roulé, mais il n'a pas de micro, mais il dit qu'il s'est emmerdé.
Oui.
Il s'est endormi, même, d'ailleurs.
À 50.
C'est dangereux, même. C'est dangereux, oui.
Parce que c'est même pas une deux voies, c'est une quatre voies, je crois, le périphérique
ça
parisien.
Ça dépend des endroits.
Il y a six voies.
Alors, l'interfile, comment ça va, là?
Bah, l'interfile, justement, grâce à l'instabilité gouvernementale, personne ne peut prendre de décision parce que personne n'est encore nommé à son poste. Mais donc.
Et à Paris, alors 50 km/h.
Oui, non, bah, ça, c'est Hidalgo. Il y a longtemps qu'elle aurait dû être assassinée, mais ça, c'est une autre histoire.
Alors, un autre sujet d'actu concernant justement les marques, j'en parlais tout à l'heure, les difficultés que rencontrent certaines marques. Ça d'ailleurs, ça va introduire le sujet suivant concernant la déferlante chinoise dont on a déjà un peu parlé. Les difficultés rencontrées par KTM. KTM qui, de longue date quand même, s'est acoquiné et fait fabriquer ses motorisations et même plus que les motorisations en Chine et qui aujourd'hui se trouve... alors, il y a les signes... Dans cette rubrique actuelle, il y a les signes avant-coureurs qui ont été transmis par rapport à la baisse des tarifs. Hein, il y a eu 20%. Moi, j'avoue que ça m'avait échappé. Alors, c'est une marque premium. Et effectivement... À la fin de 2024, ils ont fait une offre TVA gratuite, donc 20% sur les modèles, mais il reste avec un surstock de 100 à 130 000.
100 à 130 000 machines en stock. Oui. Là, vous imaginez un petit peu. Et en plus, là, il y a l'euro 5 plus qui arrive.
Et voilà. Puis KTM va mourir. Hein. C'est très prévisible parce que à partir du moment où ils ont délégué toute leur technologie, tout leur savoir-faire en Chine, la Chine maintenant, on le verra dans le sujet suivant, nous renvoie ses bécanes. Et donc ils produisent à bien moins cher une qualité équivalente. Et donc KTM, il va s'écraser comme un vieux château de cartes.
Alors, je crois qu'il faut remettre aussi l'église au milieu du village. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous ai parlé aussi des gens qui fabriquaient les motos, dont CF Moto, qui fabrique pour KTM, rappelez-vous.
Absolument.
Avec leur studio de design.
CF Moto qui a 49% du...
Ils sont cités dans l'article.
Mais rappelez-vous, que vous connaissez mon combat sur le prix délirant des motos, et KTM est l'exemple type des arbres qui ne montent pas jusqu'au ciel. Quand on trouve qu'ils ont un trou... avéré pour le moment de 3,5 milliards, c'est-à-dire que personne ne les reprendra, même à la casse.
Si, les Chinois.
Même pas, ça les intéresse.
Bah non, ils ont déjà la technologie.
Ça ne les intéresse pas. Alors, par contre, je suis allé, je vous l'ai dit, la semaine dernière, sur la zone de Seclin pour voir les motos. Bon, j'avais des petits cafards. Je suis allé voir chez KTM. C'est surréaliste, le stock.
Oui.
Et ils n'en vendent pas une. C'est surréaliste. Et donc, à un moment donné, qui est-ce qui va payer ? C'est pas les clients, c'est pas KTM, ce sont les concessionnaires qui vont se retrouver un petit peu dans le même esprit de ce qu'on a vécu avec Victory. C'est les concessionnaires qui vont sortir de leur poche le stock, parce que qui va racheter une KTM maintenant ? C'est mort.
Oui. Bah, il faut en racheter trois.
Alors moi je m'étonne de qu'une firme comme KTM puisse en arriver là, qu'ils n'ont pas vu arriver le problème.
C'est un problème.
En plus, ils ont fait investissement. Ils ont acheté MV, ils ont acheté.
Ça, ils ont vendu.
Ils ont acheté GazGaz. Ils ont acheté pas mal de marques.
Hein. Et ils sont toujours en GP. Et justement,
alors en GP, les pilotes, ils vont devoir partager les champs maintenant. Ah ben c'est fini.
Y compris les petits coureurs de l'enduro.
Alors il m'a dit qu'il va falloir faire des économies. Hein. Non, le Dakar aussi.
Ouais. Mais très honnêtement. Vous connaissez encore une fois mon combat sur le prix, parce que c'est mon job aussi quelque part. J'en parlerai tout à l'heure sur le côté un peu spéculatif et négatif des prix de moto. Et là, on est en plein dans le délire rapport qualité-prix, et que quelque part Ducati rencontrera très rapidement.
Bon, on continuera, c'est l'objet de la séquence suivante. Et pour terminer la séquence, juste une mention sur le MotoGP. Et donc 2025, vous avez un inventaire de le mercato en quelque sorte des pilotes, avec leur nouvelle écurie, les potentiels des nouveaux, un japonais là, qui espère ramener un titre pour le Japon 20 ans après. Voilà. Donc je vous laisse découvrir cette rubrique MotoGP qui date, j'en parle pas souvent, mais qui date déjà d'un bout de temps. Et parce que MotoGP, on sait aussi le traiter entre nous un autre dimanche de
voilà. Voilà, et donc on passe à un morceau de musique et après on va revenir sur le salon de Milan. Hein. Donc, alors il y a plus, je ne sais plus combien, 15-20% de visiteurs en plus.
Quelques chiffres.
On est à 700 000 ou 800 000 visiteurs, c'est incroyable. Hein.
Alors les visiteurs et surtout la représentation internationale des journalistes et des constructeurs.
Après, le morceau de musique.
Got a home everywhere I go. Well, I ain't good looking and I ain't so smart, but baby, I'm a sensitive guy. Damn, choke, give it a try. I'm a
On parle du salon de Milan.
Oui, alors
l'ECMA en fait.
Effectivement, le salon qui vient de se dérouler, qui est certainement un des plus gros. Je vais pas dire le plus gros, mais vu les chiffres que je vais donner, effectivement, ça recueille la fréquentation de l'ensemble de la planète en matière de deux roues et trois roues motorisées. Donc tu le disais tout à l'heure, une augmentation considérable des visiteurs, 600 000 en 6 jours.
Ouais.
Hein, donc toujours plus, 40 000 qu'en 2023, qui avait déjà été de 19% par rapport à 2022.
Christophe, tu te souviens quand il y avait le Covid, on faisait des salons virtuels et tu étais le premier à dire bah, finalement les salons en physique ça va plus exister et que et finalement tu avais tort.
Oui, alors j'avais tort. Le salon, le bon exemple, c'est le salon de Lyon. Qui monte toujours en puissance.
Ah oui, oui.
Bah, tenez-vous bien, Milan, c'est deux fois le salon de Lyon en termes de superficie, hein, 330 000 m². Donc, en termes de visiteurs, donc de représentation, 45 pays, 2163 marques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 36% viennent pour la première fois. Et côté pro, 38 000 personnes provenant de 126 pays ont fait le déplacement. 8 000 journalistes. Bon, alors Moto Magazine, ils ont passé de Philippe Guillaume, il y a passé 2 jours. Et donc, ces journalistes, ils sont issus de 74 pays. Donc, une observation, c'est la taille des stands des fabricants chinois,
oui,
qui est démesurée. Et là, je vous renvoie au quartier libre. C'est toujours intéressant de développement dans le propos de celui qui écrit. Alors, ça tombe bien, celui qui écrit, c'est Philippe Guillaume, justement, le journaliste qui avait fait, il y a 2 mois, l'article sur la Chine, où il évoquait quand même des réponses, on sentait un peu ça louvoyait, etc. Mais là, clairement, ça apparaît au grand jour. Le nombre de références qui sont distribuées, les stands qui sont à la hauteur des stands des grands fabricants mondiaux qu'on connaît, Honda notamment, Honda qui ajuste ses prix. Donc vous le verrez et vous le lirez dans Quartier Libre, Honda baisse ses prix sur certaines références. Donc la CIMA, qui est donc un distributeur en France, un importateur en France de motos chinoises, hein, donc, qui était sur le stand de QG Motors, qui dit « Nous avons 69 modèles qui nous sont proposés à la vente. Il va falloir qu'on trie de façon assez sélective quel modèle on souhaite importer. » Et là, devant la 125 basique à la 1000 sportive, des custom V2 ou V4, des modèles de sidecar, il y en a deux. Difficile de se faire un catalogue. Et tout à l'heure, tu évoquais effectivement les stocks d'âne qui peuvent rester chez les concessionnaires. Et bien là, ils ont intérêt effectivement à ajuster. Alors, on discutait entre nous, effectivement, de la production juste à temps, hein, de flux tendu.
Oui, mais aussi le problème, si tu as plus de modèles, si tu as beaucoup de modèles, il faut que tu...
Tu t'élèves justement.
Il faut que tu aies les pièces pour pouvoir.
Tu ne peux plus avoir du service après-vente.
Oui, le service après-vente.
Au-delà de 1 an ou 2, parce qu'il y a une nouvelle gamme qui sera sortie. Et donc, le pauvre gars, le pauvre motard qui aura acheté le numéro X de la liste et que cette liste de 70 motos ou 70 modèles, comme tu viens de parler, ne sera pas suivie.
Oui,
alors que tu ne pourras pas entretenir ta bécane, parce que d'abord, tu n'auras plus de pièces, ensuite, tu n'auras plus de mécano. Le mécano sera formé sur un type, et son savoir ne sera utilisable que 1 an ou 2, et après, ce modèle-là ayant complètement disparu, le mécano devra se reformer. Économiquement parlant, c'est de l'obsolescence programmée complètement.
Oui, mais on parlait justement tout à l'heure de KTM, donc de leur stratégie, mais ils ne sont pas les seuls à faire fabriquer. Rappelez-vous, le mois dernier, on parlait d'une BM et de son clone, en quelque sorte, chez Vogue, hein, concernant donc des motos qui ont même moteur, même beaucoup d'équipements en commun, et c'est presque du rebadging.
Exactement.
Et là, dans l'article de Philippe, il le dit clairement, par rapport à des rachats de marques, par rapport à des modèles qui sont censés venir concurrencer d'autres ou qui sont carrément le clone, eh bien, on les rebadge sous une autre marque pour dire... Et puis, bon, au passage, les cylindrés, on arrive à changer. Hein, quand vous mettez 625...
sur une 440.
Exactement. Donc, il faudra y regarder à deux fois. Donc, vous découvrirez donc dans l'édito, enfin, c'est ce quartier libre de Philippe, la déferlante qu'il annonce. Et il prenait exemple sur les stats de La Poste qui révélaient que 22% de ses colis venaient de Shine et Temu, deux plateformes chinoises de mode et d'accessoires qui, il y a 5 ans, ne faisaient que 5% des transports par La Poste. Donc, à observer de près, dans le catalogue des, je les énumérerai pas, mais des nouveautés tout à l'heure, vous verrez effectivement le nombre important de motos chinoises qui aujourd'hui sont au niveau. Alors, Jean-Yves, tu fais bien de parler des problématiques de pièces détachées, parce que c'est peut-être là où ça va pêcher. Sur une,
c'est là où ça. Sur une, immanquablement.
Je montrais hors antenne donc une pub sur la Vogue 900 Trail. Qui a tous les attributs, je dirais, des motos d'aujourd'hui.
BMW.
Absolument, avec des options, enfin des options qui ne sont plus des options, qui sont de l'équipement d'origine totale. À la limite, il n'y a plus d'options. Mais pour nous, il n'y a pas de concessionnaire avant Beauvais. Bon, déjà.
Oui, mais il y a ce problème-là de
très rapidement.
Il y a ce problème-là de maintenance, d'avoir les pièces et puis d'avoir. Et puis des gens compétents, enfin des gens qui vont suivre aussi la machine. Et c'est pas que sur un an, c'est pas sur deux ans. Il a raison, Jean-Yves. C'est pas, voilà.
Oui, mais rappelez-vous, encore une fois, ça fait vieux con, mais j'assume. Dans les années 60, l'importation des montres japonaises, montres en plastique. Rappelez-vous, c'était des montres qui coûtaient 2 francs 6 sous, mais qui ont flingué.
Ah, des montres.
Des montres, oui. Ouais, et qui ont flingué Libre et quasiment toutes les marques. Maintenant, les Japonais, comme Grand Seiko, c'est au niveau de Rolex ou supérieur. Donc, attention à la stratégie de nos amis chinois. Le chinois rigole toujours, mais le chinois est fourbe. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens, ils ont les moyens d'envahir, économiquement parlant, un pays, quel que soit le produit, que ce soit des fringues, des godasses, des motos, voire de la construction. N'oubliez pas que la voiture Dacia est fabriquée à 100% en Chine.
Ah bon. La Spring.
Oui, 100%.
Voilà. Alors, je terminerai la séquence par rapport l'intervention du directeur général et président Suzuki Motors Corporation. Je vous rappelle qu'il y a, pendant le Covid, on parlait de Suzuki comme d'une marque qui n'avait pas renouvelé sa gamme. Et donc là, ils sortent un modèle, la DR-Z4S, qui est en fait, dit Philippe, une nouveauté de 2007. Donc, qu'est-ce qui a changé? Le bras oscillant et le phare. Et donc, quand vous lirez l'interview donc en page 18 de Moto Magazine de janvier du directeur général de Suzuki, en termes de langue de bois, on ne fait pas mieux.
C'est un japonais, il s'appelle Toshiro.
Les politiciens français font nettement mieux. Ah.
Et puis aussi, hein, les motos japonaises, moi je pense que la compétition, ça sert aussi à faire connaître les performances d'une marque. Et puis, mais on ne les voit pas, il n'y a pas de motos japonaises, que ce soit en tout terrain, en enduro, en MotoGP, ou peu importe,
chinoise,
ou en
super chinoise.
Chinoise, oui.
Voilà, japonaise. Vous avez dit japonais.
Non, chinoise. Et moi, je pense que ça, c'est important quand même aussi
c'est pas
sur ce terrain-là de la compétition.
Non, c'est pas important du tout parce que ils en ont rien à foutre. Leur prix suffisamment attractif, ils peuvent se passer de la compétition en survivant sans problème. À partir du moment où tu as un choix pléthorique de bécanes. Et que tu as des moyens limités, comme de toute façon ça sera de pire en pire, tu t'achètes, tu te fais plaisir à moins cher.
Tu changes tous les mois, c'est ça?
Non,
ça s'appelle la moto jetable.
Tu fous à la poubelle.
D'accord.
Voilà. C'est effectivement l'attente aujourd'hui des nouveaux motards. Hein. Ouais, autour de la table, on est une génération, on va se qualifier d'anciens.
Il suffit de très regarder ancien. Le pourcentage de motos vendues en LOA. Les mecs, maintenant, ils passent au LOA parce que d'abord, ils sont plus emmerdés avec le contrôle technique. ils payent une mensualité, donc ils peuvent prévoir leur budget. Et puis au bout de, du laps de temps, bah, allez hop, on change.
Ils changent. Voilà. Bon,
et pour terminer la séquence, le sujet pour introduire la séquence suivante, c'est donc le retour du salon de Milan de Philippe. Et finalement, qu'est-ce qui l'a interpellé? Bah, c'est justement une KTM, la 990 RCR. Alors on verra ce que KTM nous sortira en 2025. Et surtout, un retour de la sportive de puissance raisonnable entre 90 et 130 chevaux. Bah, ça tombe bien, on va parler des sportives tout de suite après la séquence musicale.
Alors, peut-on encore faire de la route en sportive, Christophe? Ça, c'est sur la couve.
Ah,
c'est
oui.
Sur la couve de Motomag de janvier.
Alors, bon, tu ne prends pas les sujets dans le cadre
dans lequel bon, je vais. On peut en parler après.
C'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Hein.
Tu voulais parler de la largeur astronomique de la BM 1300 GS?
Bon, alors, la 1300 GS, pardon. Adventure.
Ouais, Adventure. Ouais.
Voilà, voilà. Ouais. Le rhinocéros, tel que les appellent les ingénieurs de BM. Alors, effectivement, les photos, c'est quand même un monstre. C'est-à-dire que on revient de Grèce, là, en 2024. Le nombre... Moi, j'ai vu la moitié des motos qu'on voit sur le bateau, c'est des 1250 GS. Hein, des BM 1250 GS. Je trouvais que c'était déjà assez imposant. Mais à côté... Il y a une photo assez éloquente de la 1300 et de la 1250. C'est impressionnant. Donc, tout y contribue. Les sacoches, le crash bar, le positionnement sur la moto. Et c'est bien expliqué, d'ailleurs, dans les articles. Avec une 1250, vous êtes dans la moto. Avec une 1300, vous êtes sur la moto. Donc,
non, mais c'est presque la largeur d'une petite voiture.
Oui, ils ont fait fort. C'est assez clivant. Et donc, vous verrez dans les essayeurs, il n'y a pas que des journalistes. Il y a des habitués, des rouleurs, des gens qui ont une expérience quand même assez pointue, forte des motos. Et c'est intéressant, enfin, d'abord par la pratique qu'ils ont eux-mêmes, mais par aussi les essais qu'ils ont pu accompagner. Donc, cette parole de lecteur, elle est intéressante. Alors, la BM, elle est confrontée donc, dans ce comparatif à trois autres motos. Qui sont des références dans la matière, en matière de trial, l'Africa Twin Adventure, donc Sport ES, la KTM 1290 Adventure, et donc, bien sûr, là, je venais de le dire, la 1250 GS. Donc, vous verrez dans les pages, elles sont vraiment mises l'une par rapport à la 1300 GS. J'avoue que j'en ai pas encore vu beaucoup sur les routes, mais
ça viendra.
Peut-être qu'effectivement il faut aller hors de nos territoires locaux pour la voir.
Il faudrait aussi se poser la question, est-ce que BM n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Parce que finalement, c'est une bécane qui a trop de superlatifs et qu'elle concurrence directement la 1250.
Bah, je sais pas. Compte tenu de ce que je viens de dire, c'est pas évident.
Y a quand même beaucoup d'essayeurs qui disent la 1250, finalement, elle est plus légère, elle est plus agréable.
Oui. Et donc, à cette
créer
égard, t'as
un
raison.
Modèle concurrençant un modèle précédent, je me demande si c'est bien intelligent. Au point de vue économique, c'est comme si Rolls-Royce sortait un V8. Et puis que l'année d'après, il sort un V12 en superlatif du V8. Le V8, il ne vendra plus.
Oui, surtout que là, le modèle présenté, il est à plus de 30 000 euros. On parlait tout à l'heure des modes d'achat. Aujourd'hui, compte tenu de renouvellement de gamme, pas que chez BM, on parle des sorties des modèles chinois, les gens achètent, louent. En LOA, donc les motos, et ils ne veulent pas s'enquiquiner, à gérer l'achat-revente de la moto. Donc ils budgètent, ils prévoient leur loyer.
Mais justement, un truc que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'ils ont cessé complètement la production des 1250?
Ah oui! Oui. C'est, le modèle est remplacé. Clairement, les essayeurs gardent l'ancienne.
Justement. C'est ça qui est complètement con.
À vous de vous faire une idée, allez donc voir dans les pages le dossier principal de Motomag de ce mois de janvier. Alors un autre dossier, et là j'y arrive donc effectivement, peut-on rouler en sportive encore ? Faire rouler les sportives sur la route.
En 2025.
En 2025. Et là, la confrontation, quand vous lisez le pitch de l'article, vous vous dites, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça ? Une 47 chevaux, une sportive, une 77 chevaux, une 121 et une 210 chevaux. Donc finalement, le sport, où est le sport ?
De toute façon, sport n'existe plus là, parce que vu le flicage auquel on est soumis, est-ce bien utile d'avoir 200 chevaux sur les pattes ? D'abord, 200 chevaux, vous ne savez pas les maîtriser.
47 chevaux, c'est pour les permis à deux.
Tout à fait. Mais justement, ça a démystifié, parce que les essayeurs, alors même chose, ils ont une équipe de copains visiblement qui régulièrement sont appelés à venir essayer les motos. Et donc, quand on leur dit, tiens, tu vas essayer celle-là, l'Aprilia, là, en l'occurrence, le gens, ils font un peu la fine bouche, mais ils découvrent finalement un plaisir de roulage en se disant « Ah bah ouais, c'est quand même pas si mal que ça ». Alors il faut aller chercher, d'ailleurs les chiffres des couples, je ne les ai pas sous les yeux, mais vous verrez les données techniques qui sont énoncées, elles sont quand même assez édifiantes par rapport justement aux tours sur l'autoroute, hein, au nombre de tours minutes de chaque moto, par rapport au couple aussi des motos, et j'étais assez surpris. Alors c'est vrai que les petites puissances, il va falloir aller chercher dans les tours. On peut monter jusqu'à 15 000, alors entre 10 et 15 000, là, bon... Mais n'attendez pas de reprise à bas régime.
Bah, c'est une sportive, de toute façon. Et puis, ça montre aussi qu'on peut parfaitement s'amuser avec des petites cylindrées.
Voilà. Alors, c'est l'Aprilia, en l'occurrence, qui fait 47 chevaux. Hein. Elle s'apprécie même sur les longs parcours. Et donc, elle est quasiment plus séduisante à cet écart pour un tarif... là, je vous le donne, un peu plus de 7 000 euros, quand la BM, avec ses 210 chevaux, elle est à 22 000 euros.
Tu peux t'acheter 7 bécanes par rapport à la BM.
Et toi, alors, Jean-Yves, tu t'étais bien amusé avec un petit moteur, tu pourrais acheter, parce que ça, j'ai vu ça aussi dans le Motomag, hein, le petit Roadster de chez Peugeot.
Hein, ah oui. Ouais,
30 chevaux, hein, 30 chevaux. Mais, oui, c'est un retour de Peugeot dans la construction de petits modèles, de petits moteurs.
Et là aussi, on s'aperçoit en lisant l'article que de toute façon, ça n'a plus strictement aucun lien avec Peugeot, la firme automobile, et que ça appartient à un consortium chinois.
Chinois.
Ouais. Oui, alors justement, finalement, dans notre pratique de la moto, qu'est-ce qu'on attend d'une moto ? Bah, c'est une bonne à tout faire qui peut nous emmener en ville quand on habite en ville, mais de temps en temps aussi on a besoin d'aller à la ville ou partir en voyage, en duo, etc. Et à cet égard, la Honda NT1100 était donc bien née il y a déjà 3 ans et donc elle ressort là avec un modèle 2025 avec comme titre l'essayeur Axel. Un vrai bon cheval, en fait, bah, elle améliore les points sur lesquels elle avait potentiellement aussi un besoin de s'améliorer par rapport à la protection, par rapport au confort d'usage. Donc là, on lui ajoute des options.
Inutiles comme la boîte trop robotisée.
L'électronique, hein, les suspensions pilotées. Mais bon, au plan du...
On va demander à Daniel, parce qu'il n'était pas présent à l'émission dernière. On a parlé des je ne sais pas si tu as vu, de plus en plus de marques. Greffent un système pour automatiser le passage des vitesses.
Oui.
Tu l'as vu, ça ?
Oui.
Bah, c'est intéressant pour les motards handicapés, oui, mais c'est tout.
Mais est-ce que c'est un plus ? Tu penses que c'est un plus ?
Oui. La motoscooter ?
Oui. Oui, c'est un peu... Voilà, oui, parce que on va vers l'hybridation entre le scooter, la moto, la voiture, ou c'est une espèce de melting pot technique où n'importe qui pourra prendre une moto. Ça a un objectif à un moment donné. Pourquoi ils mettent des trucs pareils ? Parce que techniquement, c'est un peu compliqué. Ben, tout simplement pour élargir leur cible consommatrice, c'est tout. C'est-à-dire que ce madame Pouette-Pouette peut prendre une moto, je sais pas, j'ai des petites mains, l'embrayage est trop dur, ben non, c'est fini.
Là, moi j'étais stupéfait, il y a quelqu'un qui m'a dit que maintenant les jeunes ne savent plus passer les vitesses, ils ne savent plus où ils en sont.
La preuve, c'est qu'il y a un permis spécial pour voiture auto.
Absolument. Mais le devenir de ces motos d'électronique, effectivement, est-ce qu'on retrouvera des motos de 20 ans?
Non, justement, c'est terminé.
Tu disais, Dan, tout à l'heure, que les concessionnaires... Alors, c'était sur le marché de la custom en particulier, mais j'imagine que c'est un peu la même chose sur des motos qui commencent un peu à dater en matière de reprise. Les concessionnaires, ils sont là pour vendre du neuf. Déjà, on parlait des surstocks tout à l'heure avec KTM. J'imagine que dans d'autres marques, ça peut être un peu la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fera de tout ce parc moto ? Parce que ce n'est pas le tout de vendre des neuves. Ça retrouve à un moment donné.
Il faut savoir aussi que dans les tuyaux du Parlement européen, il y a des propositions disant que tout véhicule de plus de 10 ans doit obligatoirement aller à la casse. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, il faut s'y préparer.
Et qui va payer la reprise de la casse, la destruction ? Mais parce qu'on paye déjà, c'est un autre domaine, sur le blanc et le brun, enfin l'électroménager et compagnie. Quand vous achetez, regardez dans votre prix, vous payez déjà la taxe à la reprise et recyclage.
Ah oui,
Eh bien.
Bah voilà, écoute.
Alors,
c'est bon.
Dernière.
C'est bon.
Bonne année.
Dernière thématique, et là, c'est le retour de Milan. Donc, vous avez un catalogue à partir de la page 40 de toutes les motos, donc avec un avis exprimé par donc les essayeurs Axel et Philippe, qui étaient au Salon de Milan, sur les sorties, donc dans toutes les marques, et particulièrement, et on revient toujours aux motos chinoises. Avec, alors attention, je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres ne sont pas les cylindrés. Hein, c'est... Donc, contrôlez les fiches techniques et vous aurez déjà une idée de ce que vous achetez.
Très bien, on passe à un morceau de musique et après on fait les soldes, c'est ça ?
Absolument. Bon, ben, la d'accord. Rubrique consommateur, il y avait assez longtemps que j'avais pas.
Ok, pour les soldes.
J'ai un beau catalogue.
Voilà. Christophe, rubrique consommateur, qu'est-ce qu'on pourrait bien s'acheter en janvier ?
Oui, alors bah, là,
t'as c'est encore des sous.
C'est...
Oui. Non, mais
bon, c'est plutôt...
il va bien nous trouver quelque chose de pas cher.
Mais oui, alors c'est plutôt un sujet d'été parce que c'est vrai que le soleil là, on l'a pas vu beaucoup.
Ah non non
c'est,
non, là c'est... je confirme.
En ce moment,
d'ailleurs, on confirme tous. Hein.
C'est... Hein c'est un peu dur quand même. Et donc, je sais pas comment vous faites quand vous roulez un moto.
Ils vendent du soleil en motomaille.
Non, mais vous êtes sur, vous faites la traversée des Alpes et tout d'un coup vous rentrez dans un tunnel. vous avez vos lunettes de soleil.
Ah, je vois où tu veux en venir.
Et comment vous gérez?
Je vois. Hein.
Comment vous gérez, hein?
Je fais comme les pilotes de rallye. Ah. Je ferme un œil et quand je repars, j'ouvre les deux œufs, comme ça je ne suis pas ébloui. D'accord. Tous les pilotes de WRC utilisent.
Tu fermes un œil.
Voilà. Ah oui, mais quand tu rentres dans le tunnel.
Bah, tu fermes un œil.
Tu fermes
pas
un œil.
Pas les deux. Hein.
Oui, oui, un œil.
Ça fait quoi?
Tu n'es pas ébloui. Ouais. Voilà, c'est banal.
Ah même, c'est pas une question d'être ébloui, c'est le noir.
Mais alors là, pour
nous. Vous nous apprenez quelque chose.
Alors.
On a niqué ça.
Je vais le dire autrement. Visière, fumée ou claire?
De toute façon, photochromique, ça ne sera pas jamais assez rapide.
Alors, justement,
il est progrès,
j'ai lu l'article.
Regarde, page 20. Justement,
il y avait ce problème de lenteur.
Absolument, c'est pour ça que j'en parle. Alors, donc, la marque italienne Irid nous sort effectivement une visière qui est pour l'instant conçue pour les intégraux Racing Nolan. Et donc, cette visière a la propriété donc, de se teinter en seulement 0,09 secondes, c'est-à-dire 9 centièmes de seconde.
Donc là, c'est-à-dire que tu sors du tunnel avec ton œil bouché, enfin que t'as bouché. ta visière, elle a le temps de se remettre on off.
Oui, voilà. Mais faut penser que c'est quand même vachement exclusif parce que si t'as pas le casque
Nolan,
t'es chocolat. En plus du bon modèle,
voilà.
Surtout quand on voit le prix absolument délirant d'une visière standard avec son pinocle. Pour un bout de plastique, c'est...
C'est pas qu'un bout de plastique parce qu'elle est équipée d'un mini panneau solaire intégré.
Voilà,
c'est ça. Il faut un peu d'énergie.
Il faut de l'énergie.
Effectivement, le tarif, c'est 150 € quand elle est achetée avec le casque et c'est 300 € quand on l'achète à part. Bon, alors c'est vrai que c'est un beau cadeau.
Hein. Enfin, t'as l'air con d'une visière sans le casque.
et apparemment,
si tu te sers pour souder.
Il n'y a pas forcément une visière pour votre casque. Alors, auditeur ou auditrice,
c'est que
pour 2-3 modèles ou 2-3 marques.
C'est particulièrement le piège à con parce que ça s'adaptera pas sur votre casque.
On nous dit dans la présentation de l'équipement qu'une marque française qui s'appelle ScreenLook travaille actuellement sur le développement d'une lentille plus universelle qui pourrait être adaptée à différents modèles de casque. Donc, on attend.
Et la lentille, c'est pas de fer. Hein.
Voilà. Alors, autre chose que j'ai repéré, un interphone qui est donc directement relié à votre téléphone portable. Et donc, plutôt que d'avoir votre téléphone sur le guidon, vous l'avez sur vous et vous avez l'interphone.
Oh, monsieur, c'est la merde, Christophe. T'es obligé de répondre quand ton téléphone et que t'es en moto.
Quand même, quand vous vous baladez en groupe, c'est extrêmement important d'avoir une liaison radio ou n'importe quoi entre le premier et le dernier. Parce que le premier, lui, en général, si vous avez un groupe de 50 bécanes, vous ne voyez pas le dernier, donc il peut y avoir une panne, une crevaison, n'importe quoi, ou un feu rouge. Et moralité, avoir une liaison permanente entre la tête et la queue du cortège, c'est extrêmement
important. Comment tu fais, Jean-Yves, si tu fais une balade une journée, t'es branché au téléphone toute la journée?
Avec les systèmes Cardo ou autres qui ont des portées de plus de 1000 mètres, c'est intéressant.
Oui, alors je regarde parce que effectivement, elle est aussi cette option dotée pour des marques, donc en l'occurrence BMW, et elle peut être couplée à des caméras avant et arrière qui servent de dashcam. Donc c'est beaucoup de détournements d'attention aussi qui peuvent arriver en plus.
C'est sûr que
Marc, pour une fois que Jean-Yves est d'accord avec un produit innovant,
alléluia. Alléluia.
Non, 2025. Dès ça s'arrose.
Ah oui, j'en ai.
À côté de toutes les mauvaises nouvelles, franchement, le bilan est plutôt négatif.
On notera, c'est le 5 janvier.
C'est sorti par l'écran.
Alors, si vous n'êtes pas motard, mais que vous intéressez aussi à la culture, et donc là j'ai repéré quelques ouvrages de lecture qui pourraient aussi vous intéresser ou à offrir évidemment. Hein, donc on parlait tout à l'heure des grands prix et donc deux ouvrages qui sont consacrés à Marc Marquez et qui sont donc l'un concernant la personnalité de ce pilote depuis sa naissance, quasiment, puisqu'en fait il était à l'âge de 4 ans déjà sur une moto de cross jusqu'à aujourd'hui, avec un profil, une découverte de la personne, et un autre album photo donc par David Régondeau, qui est un photographe hors pair des MotoGP, d'ailleurs, qui contribue à Motomag depuis pas mal d'années. Donc, à découvrir cette biographie et cet album consacré à Marc Marquez.
Une petite parenthèse, ça va chauffer en MotoGP cette année, hein, avec Marquez et puis Bagnaia qui vient à VR46. Hein. Donc VR46, c'est Valentino Rossi.
Hein. Ouais.
Et qui a jamais digéré le coup qu'on lui a fait il y a quelques années, que Marquez lui a fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu son 10e titre.
Oui, alors on parle effectivement des facéties de Marquez.
Des facéties, comme tu dis.
De son combat suite à son accident, donc, où il est resté effectivement 3 ans un peu en retrait pour revenir donc, l'année dernière. Donc vous découvrirez ça dans cette biographie consacrée à Marc Marquez. Une autre biographie, Jacques Findlay. Une vie au Continental Circus.
Le pilote au kangourou.
Donc, là, voilà. Là, on replonge.
Alors pourquoi au kangourou ? Parce qu'il y a sur son casque, en fait. Parce qu'il est d'abord australien. Et sur son casque, il avait un kangourou. Et comme Barry Sheen avait un numéro 7.
Et il avait un slip.
Et un
aussi.
Donald.
Hein ? Il avait un slip.
Il avait un slip kangourou, oui, t'es pas.
Incroyable. Ensuite, une marque.
T'as raison.
dont on a déjà eu l'occasion de croiser dans nos rassemblements, évidemment, la marque française Vauxhall, hein, Trajectoire d'une comète. Donc, une très bonne rétrospective, en fait, de la marque qui évoque, après avoir écrit donc, sur Barrigo, Bocardo, BFG, MF et Bocardo, donc, la Vauxhall, donc par Thierry Cazenave.
Il y a un manque aussi dans ce bouquin. Jean-Yves. Jean-Yves.
Voilà.
Non mais Jean-Yves, il a construit sa moto, une BFG bien avant l'heure.
J'ai pas une BFG, c'est une Valois.
Non mais c'est
pas confort.
Mais oui, c'est une Valois, mais c'est avec un moteur de GS.
Une G. Bon.
C'est le peut-être même. Peut-être que Quincou, il pourrait se lancer.
Ben oui, non mais c'est le même.
C'est la même démarche.
C'est la même démarche. Et bien avant BFG, Jean-Yves. Donc,
et Jean-Yves,
c'est pas
curieux.
C'est pas toi qui a piqué l'idée.
Et il existe toujours lui.
Oui, il existe.
Il existe encore des BFG. Ouais, encore qui roule.
Donc la Valois, elle n'est pas référencée dans ce bouquin.
Ouais, bon. Donc c'est pas complet.
Et pour terminer, donc un roman, ça va plaire à mon voisin là, Dan, Rock'n'Roll, Prépa Moto et Communauté Motard, donc Full Moon Race. Ouais. Excusez mon accent, j'aurais dû le faire dire par Dan. Hein, donc écrit par Johan Genouvrier, journaliste, et donc vous suivrez les péripéties de ce groupe de motards. Donc dans ce roman, les brèves de pilote,
mais ça peut être des brèves aussi.
Oui, aveux et confidences, donc qui est hors pair en matière de compte rendu de Grand Prix, qui est écrit dans Moto Journal, et donc sa passion de la course et son côté grand reporter rassemblent donc dans les coulisses de la course moto, aveux et confidences des pilotes. Et pour terminer, encore une marque française, Mobilette. Restaurez et réparez votre Mobilette. Alors, on a parmi nos adhérents des adeptes. Hein. Enfin, bon, ils n'ont pas attendu la sortie du bouquin pour pouvoir s'y consacrer. Hein. Mais si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Ce bouquin est fait pour vous. Enfin, test comparatif, rubrique bagagerie. Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte des sac de couvercle.
On n'a jamais assez de place, Christophe.
Ça, j'en sais quelque chose. Hein. C'est ce qui a valu mon petit problème pendant la dernière sortie. Bon, enfin, voilà. Donc là, on nous présente 6 bagageries souples. C'est des bagageries souples, plutôt, mais qui trouvent leur place sur des bagageries régime. Donc, de 10 litres à 26 litres. Alors, j'ai fait un petit calcul. Hein, c'est 7 euros le litre. Bon, voilà, entre 70 euros et 180 euros. Et vous avez un comparatif avec des techniques. Pour comment tenir sec dans une bagagerie souple? Où est le point faible?
Sac poubelle.
Où est le point faible? Dans une combine, où est le point faible?
Toujours la
braguette.
Oui, la fermeture éclair.
Ouais. Ouais.
Voilà. Et ben c'est pareil pour les sacoches de couvercle. Et donc, il y en a qui les ont résolues de certaines façons, dont une astucieuse. Donc, vous trouverez ça. Mais des séparateurs de poches et des boucles, des lanières, enfin, tout y passe.
Il y a un point à rappeler dans l'utilisation de ces sur-sacoches, c'est que surtout pas les charger. Oui. Ou alors les charger avec du truc extrêmement léger, parce que plus vous montez votre centre de gravité, et plus votre bécane devient inconduisible.
Oui, donc J'aurais pas pu mettre mon antivol de moto dedans.
Non,
bah, c'était ça, c'est clair.
Largement déconfortable.
Ça sert à rien. Ça sert à rien.
C'est vrai. Donc, c'est vrai.
Voilà. C'est en bon plus. Christophe pour le motomail.
Oui, bah après. Bon, voilà. Y a, si vous avez le format pour habiller avec le bearing, bah, vous irez voir la page suivante. Et si vous voulez transporter votre moto, il y a une chaussette sans.
On le laisse découvrir aux auditeurs et auditrices. Hein.
Oui.
Et aux lecteurs.
Et les lecteurs. Tant qu'à faire. Bien sûr. Ouais. Hein, nous.
Il y a de quoi faire.
On vous a donné un petit peu l'idée du mot du sommaire du mag de janvier.
Qui voilà, a raison voilà. De 3 pages par jour, voilà. Vous faites le magazine dans le mois.
Voilà, très bien, merci Christophe. Au mois prochain.
On se retrouvera le mois prochain.
C'est le premier dimanche du mois.
Oui, et le dimanche qui suivra le premier dimanche du mois, c'est le Salon de Lyon.
Ah, c'est le Salon de Lyon. Voilà, oui, d'accord. Je
le rappelle. Pas les éléphants entre deux.
Allez,
mais
s'il y a plein de trucs dans le
début. Mais aujourd'hui, c'était un peu l'hivernal déjà. si on veut.
Bon, voilà. Après, on parle rétrospectif custom avec Dan.
I don't
Bon, Daniel, rétrospectif custom et avenir 2025.
Oui, un grand débat. Alors, je voudrais revenir sur 2024. Enfin, ça fait des années, encore une fois, où je m'insurge contre les prix délirants des motos custom.
Quand tu parles de custom, tu parlais des marques américaines. Hein,
Entre autres, mais surtout les marques américaines, oui. Mais enfin, ceci étant, toute proportion gardée, quand tu vois les prix des KTM, des Ducati, où ils rajoutent des sommes mais ahurissantes sur leurs modèles, ou Triumph, je suis un petit peu inquiet. Alors pourquoi ? À l'origine, si tu veux, je parlais des 30 Glorieuses. D'ailleurs, c'est un sujet que j'avais tenu il y a quelques mois, le 6 mai, si je ne m'abuse. Où globalement, si tu veux, les bandes de jeunes roulaient avec des flashs, des palomas, des trucs. De temps en temps, ils se bagarraient à coups de chaîne de vélo pour les plus voyous. Mais ça n'allait jamais plus loin. Et surtout, ça a créé effectivement une vraie culture, la culture du bidouillage, de la mécanique, que tout le monde travaillait avec ses Delorto, ses Kuttner, etc. Tout le monde savait travailler sur ces machines. Et une bleue qui était transformée, customisée, durait des mois ou des années. Alors que maintenant, globalement, si t'es pas le modèle qui a plus de 2 ans, ça fait presque un peu ringard dans un certain milieu du custom. Donc, les 30 Glorieuses, si tu veux, qui ont nourri, nous tous, notre culture, tout au moins ce qui nous a interloqués ou interpellés à certains moments, c'est en train de disparaître. Les blousons noirs avaient inventé cette sous-culture juvénile apparue en France dans les années 50 avec un code vestimentaire. Rappelez-vous le perfecto, les jeans, etc. Et on commençait à voir avec le mode yéyé les modes et trottes, les premiers scouts et puis les premières motos. Et les premiers custom qu'on a vu apparaître, c'était sur des bases de 750 Honda. À l'origine.
Oui, et Harley, des surplus de l'armée américaine.
Ça, c'est autre chose. C'était un monde un peu particulier. Je parle du mainstream, du grand public. Quand on bidouillait nos motos, les motos qu'on récupérait, c'était des 750, avec des fourches, etc. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de contrôle technique, rien de tout ça. Et globalement, sans avoir de très gros moyens, tu pouvais avoir une moto différente, ta moto. Depuis les années 2000, etc., le monde de la custom culture s'est accoquiné avec un monde de la communication, de la pub, de la mode. Et comme par hasard, les motos ont suivi un petit peu ces tendances-là et les prix deviennent délirants. Rappelez-vous, je vous dis, le prix moyen l'année dernière d'un custom de bonne cylindrée, c'est 30 000 euros le ticket d'entrée. Là, je vous avais dit aussi qu'Harley et autres avaient rajouté entre 2000 et 2500 euros sur le prix de vente de leur moto. Alors, on pourrait se dire c'est dû à leur chute de vente, puisqu'ils s'étaient passés de 13 000 motos à la louche à moins de 7 000 motos. Donc, pour compenser, je dirais, le manque à gagner pour répondre au cahier des charges des investisseurs. On s'est dit qu'ils vont réagir. Eh bien, quand on regarde les chiffres à fin août, donc le marché est plié, Harley est à moins 6,23% et Indian a fait une chute de 12%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette année, regardez un petit peu, puisque Christophe parlait du salon de Lyon, comme par hasard, comme il y a moins de ventes, eh bien on continue à remettre une louche de 2000, 2003, 2005, 2007, 4000 euros sur des motos.
Ça ne peut pas durer ça.
Tu sais, il y a un vieux proverbe qui dit que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est en train de paupériser une grande partie des gens qui sont passionnés par le monde custom, pourquoi pas par le monde de la custom culture, etc., etc. Mais il arrivera un moment que même le LOA, c'est-à-dire que verser 300 ou 400 euros tous les mois ne suffira plus. Il ne faut pas rêver. Donc, à une époque où tout devient, je dirais, extrêmement cher pour toute une grosse partie de la population, même les classes moyennes, qui sont quand même le gros, qui était le gros de la consommation
d'un pays,
Eh bien ce sera fini. Et qui plus est, si on rajoute le contrôle technique, je vous rappelle que toutes nos motos, je dis bien toutes nos motos à part quelques gugus, toutes nos motos sont hors la loi. Pourquoi ? Parce que les motos américaines sont conçues pour un pays où il y a un peu plus de liberté quant à l'utilisation, d'autres pays d'ailleurs en Europe aussi. Eh bien en France, non, on a voulu castrer ces motos pour répondre à des normes. Je rappelle que la pollution en France, c'est moins de 1% des rejets mondiaux. À côté de ça, tout le monde va s'esbaudir sur une moto comme Steel Stormbreaker qui va venir de Chine, qui va traverser tous les pays, etc., mais qui sera homologué Euro 5. Mais le cycle de transport et de pollution, on n'en tient absolument pas compte. C'est normal, c'est pas chez nous. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le monde biker est un monde vieillissant. Je suis désolé, la population moyenne est plus près de la cinquantaine que des gamins. Et des gens qui ont envie de conduire des enclumes de plus de 300 kilos, il y en a de moins en moins. Parce que ça demande un minimum de compétences. En plus, ce sont quand même pas des motos extrêmement pointues en termes de tenue de route, faut être honnête. C'est pas leur vocation. Elles ont pas 200 chevaux, elles n'ont pas de suspension pilotée, encore que ça arrive. Donc ça, c'est compliqué à piloter. Et comme on n'apprend plus à piloter une moto dans les auto-écoles, eh bien, c'est
ni
vrai.
Ni dans les clubs.
Ni dans les clubs d'ailleurs. Mmh. On a de plus en plus de gens qui sont des frayeurs et qui disent mettre 30 000 boules ou 35 ou 40 ou 50 pour les CVO, ça ne marche plus. Ça, c'est la projection 2025. Et si on continue comme ça, tu vas te faire avoir une fois, tu vas te faire avoir deux fois, mais quand tu vois avant ta moto, on dira hey, « Hé Coco, tu le remets en état, même si les pièces, il n'y en a plus. Ben, t'as plus de pièces, tu roules plus. » Voilà où on en est. Donc,
la bécane a plus de 10 ans et c'est la casse.
Attends, mais ouais, même pas 10 ans.
Même pas 10 ans.
Mais... 3 ans. 3 ans. Je reprends une marque américaine, hein, Harley, puisque ben, c'est un petit peu ma marque de cœur. Screaming Eagle, qui fabriquait, qui livrait, délivrait dans toutes les concessions des kits. Hein, stage 1, 2, 3, 4 et 5.
De fou de
maintenant,
pièces.
C'est fini. Maintenant, ce sont des homologations standards qui n'amènent rien du tout. C'est-à-dire que le potato, c'est fini. Les cartos un petit peu pointus, c'est fini, à moins de passer par des grilles. Mais à ce moment-là, au niveau sonore, vous n'êtes plus dans les clous. Au niveau pollution, vous n'êtes plus dans les clous. Vous vous faites gauler, ça va vous coûter une blinde. Donc, on est un petit peu à la croisée des chemins. Et je plains les concessionnaires, puisque j'en ai connu un qui a d'une fois avalé son portefeuille quand Victory l'a planté. Parce que je rappelle, on parlait tout à l'heure de KTM. J'ai vu les stocks de KTM chez certains concessionnaires. Ce sont bien les concessionnaires qui se sont engagés et qui ont payé le stock. Je rappelle que dans beaucoup de marques, vous avez les conventions où vous commandez et vous vous engagez financièrement. Sinon, vous n'avez pas de stock.
Sur l'année suivante.
Sur l'année. Donc, ton stock, après, tu te débrouilles. Et le drame, c'est qu'on voit les Japonais comme Honda, Kawasaki aussi, ont des opérations marketing en baissant les prix, des fois sur certains modèles, de 20 à 25, voire 30 %. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas cons. Ils ont besoin de travailler sur leur volume. Et à côté de ça, tu as des marques dites super premium qui augmentent leur prix en pensant que tous les consommateurs sont des richissimes ou des gogos. Bah, à un moment donné, on va arriver comme KTM qui se voulait super premium et on mettra les clés sous la porte.
Très bien, merci Daniel. C'était ton point de vue là, donc sur, oui. sur l'avenir du custom en 2025.
Oui, bonne année.
Tous les chiffres sont bien sûr consultables. Vous demandez le concessionnaire, puisque votre concessionnaire a exactement le nombre d'immatriculations sur l'année.
Très bien, merci Daniel. Donc on passe à un morceau de musique et après on retrouve Jean-Yves de la Fédération Française des Motards en Colère pour un bilan 2024, vite fait. Alors à l'adhésion 2025 et aussi un calendrier début 2025. Voilà. À tout de suite.
Exactement.
Ego, you men are deceitful and quite evil. You're a parasitic creature. Nothing will control this. What you cherish ultimately will consume you. And so what is this? To wait to commit? You just run and hide. You can't harm it. So let's not be displayed. Lying here afraid. I didn't really want to break it. All I want is things to turn.
Jean-Yves, il nous reste 8 minutes hein, pour oui, un bilan oui, FEDE 2024, vais... l'adhésion 2025 et le calendrier aussi 2025.
Je vais faire vite. Justement, comme au point de vue mondial, l'avenir de la moto est relativement sombre, je préfère me rabattre sur des relativement bonnes nouvelles qui concernent localement, qui nous concernent localement. Et donc, finalement, au bilan, l'année 2024 a été une bonne année pour l'antenne 59, et je crois aussi pour la 62, parce qu'on est passé de 130 adhérents à 192. Bon, justement, c'est l'occasion de rappeler aussi que c'est la période de réinscription. Et que, bon, ça c'était la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que sur le nombre de motards qu'il y a dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut dire qu'il y aurait mieux, on peut mieux faire, comme disaient mes profs quand j'étais dans le primaire. Donc, le boulot qu'a fait la 59 sur l'île, c'est peut-être pas assez connu, mais c'est quand même intéressant à faire sortir. C'est que les deux roues motorisées sont exclues de la ZFE de Lille. Donc, si vous avez une moto qui est norme Euro 2, 3, etc., ben, vous pourrez quand même rouler à Lille en moto. Donc, si vous ne pouvez plus aller en bagnole, eh ben,
achetez-vous
une moto.
Moto.
La CIF, qui est aussi un gros problème, vu que les incapables qui nous gouvernent ne sont même pas capables de se maîtriser eux-mêmes, maîtriser leurs ambitions au profit du bien commun. Comme il n'y a plus personne aux commandes, ben la CIF sera maintenue jusqu'à avis contraire. Et donc là aussi c'est intéressant parce que là aussi dans la presse et autres, il y a énormément de carabistouilles, des annonces alarmistes qui disaient les motards ne pourront plus rouler.
La
circulation interfile.
Voilà.
Donc
c'est encore la dernière chose où
on aurait un petit degré de liberté.
On a un peu de liberté de pouvoir éviter de rester coincé dans les embouteillages.
Au point de vue personnel, il y a encore les offres d'abonnement à Motomag à 10 euros, il en reste encore. Mais pour ça, il faut être assuré à la mutuelle ou alors être membre de la FFMC. Il y a le livre des 40 ans qui est à 11 euros au lieu de 18,50. Et donc, il suffit d'aller sur l'espace adhérent de FFMC Asso pour trouver ce qu'on veut. Donc, là aussi, un truc qui est intéressant, c'est à court terme. Hein, c'est pas la peine de voir à long terme parce que c'est tellement incertain. Donc, la FFMC et l'AFDM aussi va participer à la soirée sortie du calendrier qui est un coup du 11 janvier. Donc, bon, c'est intéressant à voir. La relais Calmos en enduropal, moi, il y a bien longtemps que je ne vais plus au Touquet parce que je ne veux pas enrichir cette ville de salopards. Et donc, je sers les motards en œuvrant au relais Calmos, donc en distribuant des cafés, en discutant et en accueillant les motards dans un endroit chaud. Il y aura le Vintage Motor Show à Wascal le 9 mars. Et puis un deuxième salon à Douai, le premier salon a dépassé toutes ses prévisions. Et donc là, le deuxième, je crois qu'ils vont se réajuster à ce que les gens puissent boire et manger lors du salon. Donc les nouvelles locales sont pas trop trop mauvaises. Alors il y aura une réunion des adhérents le 15 février, des adhérents de la FFMC 59. Et l'Assemblée Générale le 1er mars. Il y a aussi les stages à FDM, 29 et 30 mars, le 26 et 27 avril, le 24 et 25 mai, le 13 et 14 septembre. Allez voir sur le site afdm.org.
Merci Jean-Yves.
Alors continuez à ne pas passer par le contrôle technique parce que tous les investisseurs de contrôle commencent à trouver que la plaisanterie a
assez duré
et assez coûté cher.
Voilà. Très bien.
Donc, continuez à lutter, révoltez-vous.
Merci Jean-Yves. Et on vous donne rendez-vous samedi 11 janvier, hein. Sortie officielle du calendrier, hein, avec le groupe en concert Redline. Distribution des calendars, forum des motoclubs et associations, enregistrement de l'émission de radio si vous voulez nous parler de certaines choses que vous avez qui vous tiennent à cœur. Et tombola et ambiance rock'n'roll. Voilà, ça se passe donc au Trianon, donc dans la zone commerciale à Seclin, hein, à partir de 18h30 samedi prochain. Voilà, merci Daniel. Merci pour cette rétrospective custom. Merci aussi pour toutes ces infos.
Fight.
Ouais, ok, d'accord. Et puis on remercie qui ?
Notre technicien.
Merci Laurent. Ciao, bye. À dimanche prochain.